Alors, on va commencer ces entretiens avec un premier docteur qui s'appelle le docteur Jean-Marc Echen. C'est bien ça, j'ai bien prononcé, avec un titre que j'adore. Si j'avais su, vous savez que c'est ce que la plupart des gens disent sur leur lit de mort, on appelle ça comme ça, hein, quand on les questionne sur la fin. Qu'est-ce que tu aurais changé dans ta vie? Ah, si j'avais su. Et ce qui va derrière, en général, c'est de nombreux regrets. Vous avez une histoire tout à fait différente à nous conter à ce sujet.
Oui, merci. Cette première présentation, en fait, avait pour thème de présenter l'importance du diagnostic de la maladie neurodégénérative. Moi, j'ai préféré l'appeler « si j'avais su », justement, pour faire un petit peu écho aux souvenirs, à la mémoire, justement, qui nous aurait permis de faire autrement. Alors, je vais quand même remercier d'abord France Alzheimer et la Fondation Recherche pour m'avoir invité à ces entretiens. Et merci à vous tous d'être venus partager cet après-midi. Mes liens d'intérêt, aucun sur ce sujet, et je vais vous parler avec grand plaisir de ce qui fait une bonne partie de mon travail quotidien. Et c'est peut-être l'intérêt de ce témoignage. En m'invitant à partager avec vous aujourd'hui sur le thème de la maladie d'Alzheimer, vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous allez me forcer, en fait, à faire un grand écart, comme un gymnaste, entre mes consultations mémoire, où je reçois des patients déjà porteurs de troubles, mais où on parle de prévention, et puis l'hôpital, avec notamment l'UIT Alzheimer, où je travaille avec des patients qui malheureusement ont déjà des troubles du comportement, et donc un stade évolué de la maladie, voire des complications organiques surajoutées. Et si je veux parler prévention, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, c'est parce que je sais trop bien ce qu'il risque d'advenir, du coup, si on ne s'en occupe pas, si on laisse la maladie évoluer, si on attend patiemment, alors que les choses se dégradent en dessous, pour enfin faire quelque chose. Ne soyons pas patients. La maladie, elle n'attend pas, hein, elle évolue en sous-marin. Le problème, c'est que du coup, quand je parle de prévention sur les maladies neurodégénératives, on me dit souvent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À quoi bon savoir, puisqu'il n'y a pas de traitement? N'est-ce pas normal, avec l'avancée en âge, de perdre un petit peu la mémoire? Autant de choses que vous avez déjà entendues un petit peu souvent, et question qu'on se pose, quand en fait, on ne sait pas. Alors, pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous raconter une courte histoire. Alors, courte, parce que je l'ai résumée, et parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, et je veux la raconter en 2 minutes, mais elle a duré certainement quelques mois et quelques années, évidemment. Et je ne serais pas étonné qu'elle rappelle quelque chose à certains d'entre vous. Voici donc, en résumé, l'histoire de Lucie, 82 ans, qui habite Cilaos. Lucie, elle vivait seule, quand je l'ai rencontrée, hein. Et ce, depuis quelque temps déjà, son mari l'avait quitté parce qu'il était très malade, et c'est d'ailleurs Lucie qui l'avait accompagné jusqu'à ses derniers jours. Lucie était en pleine forme physique, bien qu'elle ait vécu les difficultés dues aux suites de l'après-guerre, l'éducation de ses 6 enfants et la maladie de son mari. Elle avait guère travaillé, ou plutôt, en fait, elle avait mené cette fameuse profession pendant toute sa vie, fort laborieuse, de s'occuper de ses nombreux marmailles, et puis d'accompagner son mari jusqu'à la fin. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais la vie ayant appelé ses enfants vers leur propre vie à eux, Lucie commençait à s'ennuyer, seule à la maison, toutes ces longues journées. Et si elle avait perdu un petit peu le goût de la vie, le goût des sorties, elle avait quand même quelques amis qui venaient la voir, hein, bien sûr, et qui l'invitaient de temps en temps. Et puis au fur et à mesure de leur visite, les enfants notaient qu'elle oubliait des choses, peu importantes au début, puis de plus en plus problématiques. Notamment quand ce week-end de novembre, ayant oublié la visite qu'elle avait prévue avec sa famille, elle avait oublié de faire le repas. Ses amis passaient de moins en moins, car les jeux de société étaient de moins en moins drôles finalement, hein, quand elle prenait 10 à 12 lettres de Scrabble au lieu des 7 requises, ou que les dominos ne s'alignaient plus de manière naturelle. Puis un jour, ayant noté qu'elle avait maigri, un de ses enfants sollicita le médecin traitant pour faire un point. Donc ce dernier l'examina, trouva rien sur le plan somatique, et puis il finit par la questionner sur la mémoire. Et puis, comme souvent, c'est sa petite fille qui l'accompagnait qui a répondu « Ah non, mais sa mémoire est très bonne, elle se souvient même du nom de ses anciens amis que nous-mêmes nous avons oubliés. Et puis, elle fait encore très bien la cuisine. » Il faut dire qu'elle était gourmande, hein, sa petite fille. Donc, vous voyez bien, la tête est encore bonne. Et puis, bah, Lucie, elle eut un large sourire quand on dit ça pour elle. Et puis, plus rien ne se passa pendant des semaines, des mois peut-être, qu'elle faisait en fait plus grand-chose, parce que sa petite fille était venue à la maison pour gérer les tâches ménagères. Jusqu'au jour où les études ont rappelé sa petite fille, qui est repartie à Saint-Denis, sans que la famille ne se rende compte, finalement, que sa présence était devenue indispensable. Et un soir, patatras, en revenant d'une sortie au restaurant, les voisins de Lucie la retrouvent sur la route, en chemise de nuit, désorientée, confuse. Désemparés, ils appellent les pompiers qui la conduisent à l'hôpital. La suite est malheureusement classique. Tout le monde dormait déjà, personne pour venir la chercher. Lucie s'est retrouvée en gériatrie, puis en UTI Alzheimer. Parce qu'elle déambulait, elle était confuse, et donc il fallait effectivement la protéger, la mettre dans un lieu sécure. Et en quelques jours, le bilan fut fait. On a fait le diagnostic rapidement de maladie d'Alzheimer, qui ne faisait plus guère de doute, et il fallait commencer à penser au futur. Sauf que de futur, personne pour venir habiter avec elle, le domicile n'était pas sécurisable. Rapidement, il a fallu envisager en fait, un placement. Lucie, en effet, n'était pas du tout d'accord avec les aides proposées pour le retour à la maison. Elle n'acceptait pas non plus les traitements qui étaient rendus nécessaires par son angoisse, et elle devenait quelque peu agressive. Alors l'épilogue de cette histoire, si on refait la trajectoire de Lucie, bah, le jour où ça déborde, finalement, du jour au lendemain, elle sera partie de sa maison, un beau soir, pour ne plus jamais y retourner, se retrouver en EHPAD, en lieu secteur sécurisé pour passer le reste de ses jours. Alors nous sommes tous d'accord que cette histoire n'est pas la plus heureuse. On aurait pu faire mieux. Eh bien, nous sommes justement là pour essayer de mieux comprendre comment beaucoup de choses auraient pu être envisagées pour éviter ce parcours, il faut le reconnaître, peu satisfaisant. J'aurais pu choisir beaucoup d'autres histoires qui se passent bien mieux, mais celle-ci, elle avait le mérite quand même de poser ce que nous souhaitons tous éviter, en tout cas améliorer. Et comme je suis d'un naturel plutôt optimiste, d'autant qu'il existe des choses à faire pour lutter contre les conséquences de la maladie, je vous propose d'évoquer, sous forme d'un verbatim, de quelques mots positifs, pourquoi me motiver à consulter pour un possible déclin cognitif évoquant une maladie neurodégénérative, si seulement j'avais su. Tout d'abord, rassurer. Au mieux, devant des symptômes courants, comme des difficultés à se souvenir ou simplement s'organiser, planifier ses occupations, la consultation mémoire servira à écarter le diagnostic. Ouf, j'ai pas la maladie d'Alzheimer. Voir cette consultation permettra peut-être de poser un éventuel autre diagnostic qui mérite qu'on s'y intéresse, car il justifiera un traitement ou un accompagnement adapté qu'on n'aurait pas pu prescrire sinon. Un trouble du sommeil, un problème psychologique, une dépression, une anxiété, un problème thyroïdien, un surmenage, autant de soucis qui entraînent des troubles de la mémoire, ce que nous appelons les diagnostics différentiels. Et puis bien sûr, rassurant quand même, si finalement le diagnostic de maladie neurodégénérative est posé, les familles me disent souvent « Ah bon, c'était donc ça, on s'en doutait un petit peu, mais maintenant que nous savons, nous sommes moins inquiets. Nous allons savoir quoi faire, et nous, car nous comprenons, l'ennemi connu étant à moitié vaincu. » Deuxième mot que j'ai choisi, la dignité. Comment se comporter avec un parent Alzheimer, ce fameux permis de se conduire avec un parent Alzheimer? Ça s'apprend. Sinon, on s'énerve, on s'épuise, on culpabilise. Non, non, il n'est pas méchant. Il ne le fait pas exprès, c'est la maladie. Pour l'assistance aux besoins essentiels, garder la dignité, c'est aussi l'habillage, par exemple. Ne pas laisser sortir vêtu comme l'as de pique ou comme Lucie, en chemise de nuit, en pleine nuit, dans la rue. Permettre le respect des choix. Ce n'est pas parce qu'on est malade d'Alzheimer qu'on n'a pas le droit de décider pour soi ou de profiter des choix qu'on avait faits auparavant. Lucie avait peut-être d'autres choses à faire que d'attendre. D'où l'importance de pouvoir prendre les décisions qui nous concernent quand on le peut encore. Ces choix et autres directives anticipées ne seront possibles qu'en connaissance du pronostic, donc du diagnostic. Plaisir, un maître mot en gériatrie. Les traitements qu'on va pouvoir proposer en cas de diagnostic visent entre autres, mais principalement au confort. Traitement de l'anxiété, de la dépression associée ou secondaire, du sommeil, du risque de dénutrition. Si l'on sait que la maladie va distraire des tâches logiques et prévisibles en désadaptant le comportement du patient, on saura différer la tâche prévue comme la toilette, le repas, et y revenir plus tard. Alors que tant qu'on ne sait pas, on s'obstine, plus ou moins exaspéré, avec les conflits que ça entraîne et qu'on imagine bien. Savoir, pour l'entourage, ça motivera aussi à s'organiser, se réorganiser, proposer plus de passages, car conscient des besoins plus grands et plus nombreux. Plus de visites des amis, de la famille, mieux répartis et partagés entre les aidants, ce qui permettra de bonnes après-midi en bonne compagnie. Sécurité, bien sûr. La connaissance des risques amènera à sécuriser le domicile et les activités. les barreaux, fenêtres, la conduite automobile, la pharmacie, la gazinière. Et puis, s'il le faut vraiment, envisager à temps et au bon moment une alternative au domicile, par un lieu de vie sécurisé, un accueil familial prévenant et disponible, et pourquoi pas une maison de retraite adaptée avec les moyens utiles. Et oui, j'ose parler d'avenir dans ce contexte. Envisager les directives anticipées, comme évoqué plus haut, anticiper sur les dossiers EHPAD qui peuvent prendre du temps à instruire, quitte à ne pas en avoir besoin finalement. Prévoir une habilitation familiale ou un mandat de protection future pour faciliter les démarches éventuelles et sécuriser les intérêts personnels et patrimoniaux. Rencontrer son notaire peut être précieux. Et je souhaiterais enfin insister sur un point. En connaissance du diagnostic, de la maladie ou du proche, les aidants pourront apprendre à se protéger, ne pas trop culpabiliser, puisque rien n'est de leur faute. Et ça, c'est une meilleure garantie d'un avenir plus serein. Nous pourrions évoquer nombre d'autres bonnes raisons d'entrer dans le parcours mémoire, comme la prévention, les traitements, thèmes que vont développer les intervenants suivants, qui compléteront l'arsenal des choses à mettre en œuvre pour sécuriser l'avenir, tant sur le plan diagnostic que préventif. Ce qui est certain, c'est que ne pas entrer dans ce parcours, ne pas aller au diagnostic, c'est un peu perdre de ce temps précieux de prendre du temps. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour des questions.
Merci Jean-Marc. Alors les mots que vous avez utilisés, je les reprends. Rassurer, rendre la dignité, proposer une expérience dans le plaisir, maintenir la sécurité pour voir un avenir un petit peu plus sympa, c'est ce qu'on dit. Ce sont les mêmes mots que j'utilise moi en tant que maman de ma dernière de 22 mois. Je trouve ça assez sympa en fait de faire ce rapprochement parce que quelque part, si on sait le faire et si on a su le faire avec nos enfants, il y a de grandes chances qu'on puisse continuer à savoir le faire avec nos aînés, avec nos grands-mounes. Je suis sûre que vous avez des questions à poser.
Merci. Margie Sudre, ancien médecin anesthésiste réanimateur, intéressée par la maladie d'Alzheimer parce que malheureusement, elle touche un membre très proche de ma famille. Et je trouve votre vision un peu optimiste parce que mon beau-frère a été testé positif il y a 5 ans de cela. Rien n'a pu être fait pour retarder. Vous me direz, 5 ans, c'est déjà long, bien entendu, mais on l'a vu progressivement se dégrader année après année et actuellement, et on ne trouve pas de place dans les institutions. Il n'y a pas suffisamment d'institutions prêtes à accueillir les gens confortablement, avec du plaisir, comme vous le dites. Alors, est-ce qu'il est prévu quelque chose dans les actions de votre association pour augmenter le nombre de lits possibles pour accueillir justement ces malades? Donc, c'est pour ça que je me permets de trouver que vous avez une vision plutôt optimiste des choses.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous nous témoignez là. D'abord, votre réalité, qui est une réalité, effectivement, qui existe pour de nombreux aidants, j'imagine. Maintenant, les réalités sont multiples. Il y a également l'idée de la formation. Comment est-ce qu'on aide au mieux les personnes qui sont malades? Et puis, une troisième chose qui est un lieu d'accueil adapté pour maintenir ce dont nous a parlé le docteur Eugène.
Merci pour votre remarque, enfin vos remarques, effectivement, en une. On fait le même constat. Là, j'ai essayé de prendre le parti et de commencer par la vision positive, évidemment, c'est-à-dire l'obligation de moyens que la société a à mettre dans cette maladie. Hein, je crois que c'est vraiment l'important. Alors, les résultats, ben, ils ne dépendent pas de moi. Moi, je suis président de la Société de gérontologie de l'île de la Réunion. J'essaie de partager un discours médical de ce qu'on sait. Pour le populationnel et le faire remonter aux instances, au sein du CHU, on fait la même chose au niveau des consultations mémoire, on fait remonter, mais après, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Je pense que, certes, comme mon histoire, elle est un peu triste, celle que vous racontez, elle l'est également, cette évolution-là, on le sait, c'est pour éviter ces évolutions-là qu'on aimerait effectivement qu'on avance un peu plus, alors tant sur la recherche pour les médicaments que sur l'augmentation des moyens pour la prise en soins, mais aussi pour les mesures palliatives, pour les aidants et puis pour les seniors qui sont atteints. On est en retard à La Réunion pour les institutions, alors qu'en métropole, on est en train de se dire qu'on va essayer de fermer certains établissements. La Réunion est encore en retard et il y en a qui s'ouvrent actuellement. Il y a un petit décalage, effectivement, de 10 ans. Moi, je pense effectivement, comme vous, qu'il n'y a pas 10 ans à attendre. Hein, il faut se dépêcher et effectivement se préparer au tsunami, notamment avec le vieillissement de notre population qui est beaucoup plus jeune qu'en métropole. Et on va rattraper ce retard. Enfin, on ne le rattrapera pas, on va suivre, mais on va avoir en tout cas un tsunami de personnes plus âgées, dont le nombre de patients Alzheimer qui iront derrière. Donc, il faut mettre des moyens. Vous avez complètement raison de le souligner. Je ne serai que porte-parole de ces demandes-là et justement au nom des aidants et des patients, parce qu'on a bien conscience que c'est compliqué. C'était l'exercice que je voulais présenter. Hein, quand je dis que je fais le grand écart, ce n'est pas juste pour la boutade. C'est qu'effectivement, on a les consultations où on voit effectivement des patients, mais on a aussi les unités Alzheimer où on reçoit les patients qui sont en perte de vitesse parce qu'on a trop attendu, on n'a rien fait avant. Même donc en faisant des choses, ça peut finir là, mais ça se passe via une consultation, via un suivi avec le service du conseil départemental, avec les associations MND, et tous ensemble, on essaie effectivement d'amener dans un parcours les personnes pour qu'elles soient le moins en détresse. Et en tout cas, les prendre le plus au début possible pour ne pas arriver, effectivement, vous savez, quand on descend, on saute du 50e étage, jusqu'ici tout va bien, mais arriver au trottoir, ça fait mal. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Et donc, entre mon grand écart, les consultations de prévention et le diagnostic le plus précoce possible, et la fin de vie, finalement, descente, il y a beaucoup de choses à faire et c'est celle-là qu'il ne faut pas rater. Et celle-là, souvent, ce n'est pas nous, les médecins, qui y sont. Hein. Donc, c'est vraiment les familles, donc le conseil départemental, les associations, l'association France Alzheimer, et les associations d'aidants. Et Dieu sait que ça se met en place, il y a un gros tissu. Et reste à partager l'information, ça me paraît important. Et je crois que mes collègues vont en parler aussi après dans la prise en soin.
C'est important ce que vous soulignez là. C'est aussi l'objectif de ces entretiens, c'est de pouvoir poser un constat avec des chiffres, avec des témoignages, et de cesser d'être dans un déni qui, du coup, ne fait pas avancer l'affaire. De pouvoir dire, il y a des choses, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ?
Oui, bonjour, je suis Nathalie, psychomotricienne, justement, dans un SSR gériatrique. Moi, la question qui m'interroge depuis longtemps, c'est surtout le décalage entre, justement, les spécialistes tels que vous et puis les médecins traitants. Parce qu'on voit, justement, les aidants, très souvent, qui sont très surpris. Ils arrivent au bout d'un certain temps, justement, et ils nous disent « Mais mon médecin traitant ne m'a rien dit, mon médecin traitant n'a rien vu. » Et je trouve que le parcours est déjà trop long entre le médecin traitant et vous. Enfin, gériatre, spécialiste, psychiatre, et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça, ce délai justement, qui retarde vraiment le diagnostic ?
Merci beaucoup pour cette question qui me met dans l'embarras. Et je fais un deuxième grand écart. Quand on s'est rencontrés la première fois pour mettre en place ces entretiens ici à La Réunion, qui existent depuis quelques temps en France, la première question qui nous est venue, nous, effectivement, spécialistes qui voyons les patients un peu tard, quelquefois en consultation, c'est se dire que pourquoi, effectivement, les patients ne viennent pas plus tôt. Pour les premières choses que j'ai dit, à quoi ça sert de faire un diagnostic puisqu'il n'y a pas de traitement et d'autres phrases qui vont bien avec, c'est du soin palliatif, des choses qu'on a du mal à entendre, même quelquefois, alors qu'on sait qu'il y a des choses effectivement à préparer avant. Donc, on s'est dit, peut-être que c'est une réunion avec les médecins. C'est-à-dire que vous seriez tous des médecins et qui seraient volontaires. Mais là, je suis encore plus optimiste et on va me le reprocher. On a un petit peu de mal, mais bon, il faut rester confraternel. J'ai dirigé une thèse qui s'est terminée il y a 2 mois pour faire un petit peu un état des lieux, des besoins des médecins sur le territoire. Ils le reconnaissent tous, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas. Donc c'est un problème de formation. Ils ne connaissent pas forcément les circuits, alors qu'ils existent, et il y a quand même maintenant des petits agendas qui existent, qui circulent, notamment par le DAC, l'ex-MAIA, PTA, et France Alzheimer, bien sûr, qui partagent volontiers, et puis nous, dans les unités mobiles, on partage évidemment ces documentations, mais il faut déjà aller là. Les services du conseil départemental partagent énormément de documentation, ils sont évidemment très formés, parce que France Alzheimer s'en occupe, les neurologues s'en occupent aussi. Donc, tout est là. Mais effectivement, il faut une motivation. Donc, il faudrait qu'on prépare, et je pense qu'on va le faire avec l'aide de la Fondation, effectivement, de mettre en place, peut-être en collaboration avec la Société de Gérontologie, mettre en place des formations à destination des professionnels de santé. On sait que les sentinelles, qui sont les paramédicaux, sont là, voient les patients, puisque ce sont ceux qui sont au quotidien au plus proche, notamment quand ils suivent un patient hypertendu ou diabétique, avec donc d'autres facteurs de risque vasculaires. Ce sont les sentinelles qui peuvent nous envoyer les patients, mais ont du mal, évidemment, à nous adresser directement les patients. Et il faut passer par le médecin traitant, qui, lui, n'est pas là avec ça, comme on dit ici. Alors il y en a qui le font, et qui le font bien, et très bien, et qui font beaucoup de bilans, et on voit arriver les patients avec quasiment leur diagnostic, leur IRM, leur bilan biologique. Mais c'est effectivement, pour l'instant, trop anecdotique. Donc il faut qu'on fasse un travail, effectivement, alors, plus de vulgarisation, mais de sensibilisation, effectivement, du parcours. C'est vraiment une histoire de parcours, hein, typiquement celui de la mémoire, comme beaucoup d'autres en gérontologie.
Et puis les premières sentinelles, ce sont vous, hein, les gens qui avaient la connaissance de l'histoire de la personne qui semble évoluer, changer, et que vous pouvez observer par un certain nombre de critères, eh bien, les différences.
Je sais que nous, en tant qu'association France Alzheimer Réunion, on a fait un gros travail sur le territoire. Alors, le gros travail, il a été fait il y a 4 ans en arrière, hein, mais pour sensibiliser l'ensemble des médecins. Donc, on a mis des bénévoles sur le terrain et je peux vous dire qu'on est allé. Mais le problème, c'est que quand on arrive dans les cabinets médicaux, ben, les médecins ne peuvent pas nous recevoir parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des brochures à l'accueil, mais voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais voilà, c'est un gros travail. Et voilà, les médecins, comme le disait Dr Echen, les médecins n'ont pas le temps de nous recevoir. Mais quelque part, c'est un travail qu'on a fait corps et âme.